Bonjour, merci d'écouter RFI. Il est 23h à Ramallah, 16h à Ottawa.
Théo Renaudon.
Quatrième échange de prisonniers palestiniens contre otages israéliens ce samedi. 183 détenus palestiniens contre 3 otages israéliens précisément. Manifestation à Paris de la diaspora congolaise. Ils réclament des sanctions internationales contre le Rwanda, allié du M23. Et puis le Canada se dit informé par les États-Unis de l'augmentation des droits de douane à 25%. Ça concerne tous les produits canadiens entrant aux États-Unis. Droits de douane qui seront mis en place dès ce mardi, dit Washington. Nouvelle journée de libération d'otages israéliens contre détenus palestiniens à Gaza. Le Hamas a relâché 3 civils, 3 hommes, dont un franco-israélien. L'opération s'est déroulée dans le calme. En échange, Israël a libéré 183 détenus palestiniens, parmi lesquels une centaine de Gazaouis arrêtés après le 7 octobre et sans lien avec l'attaque du Hamas. Ils étaient détenus sans charge ni jugement à Jérusalem, Sami Boukhalifa.
Amaigris, les joues creusées, le visage marqué, les détenus palestiniens retrouvent la liberté. Faher Shritah, porte-parole de la commission des affaires des détenus palestiniens, dénonce des conditions de détention effroyables dans les prisons israéliennes. Ils sont en mauvaise santé, ils ont été battus, humiliés, ils ont subi des actes de torture, surtout durant les derniers jours. Pour les forces d'occupation israéliennes, la libération de ces détenus est un aveu d'échec, car certains d'entre eux étaient condamnés à de longues peines, voire à la perpétuité. Israël affirme que ces détenus ont du sang sur les mains. Certains ont été condamnés par des tribunaux militaires rattachés aux forces d'occupation israéliennes. C'est un simulacre de justice, dénonce Faher Shritah, dont l'organisation est liée à l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Ceux qui ont vraiment du sang sur les mains, ce sont les soldats des forces d'occupation israéliennes qui bombardent pour détruire, pour tuer ou amputer des enfants à Gaza. La lutte du peuple palestinien est légitime. Nous ne faisons que nous défendre. Nous souhaitons mettre un terme à l'occupation afin d'avoir un pays libre et indépendant. Parmi les 183 Palestiniens libérés ce samedi, 18 avaient été condamnés à la perpétuité, 54 à de longues peines. 111 sont des Gazaouis arrêtés après le 7 octobre mais sans lien avec l'attaque du Hamas. Les Palestiniens les considèrent comme des otages détenus uniquement pour servir à Israël de monnaie d'échange contre la libération des otages israéliens aux mains du Hamas. Sami Boukhalifa, Jérusalem. RFI.
Au moins 10 morts dans une attaque contre un village alaouite dans le centre de la Syrie, dans le nord de la province de Hama. Attaque rapportée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alaouite, c'est la minorité d'où est issu l'ex-dictateur Bachar el-Assad. Lors de son règne, sa minorité avait la réputation d'être favorisée par son régime. Drapeau bleu, jaune, rouge à Paris, couleur RDC, 1500 manifestants ce samedi pour protester contre, je cite, le manque de soutien international face à l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda à Goma, capitale du Nord Kivu. Les protestataires, pour la plupart membres de la diaspora congolaise, réclament des sanctions contre le Rwanda de la part notamment de l'Union européenne. Et puis en RDC même, des milliers de manifestants ce matin à Kananga, dans le centre du pays. Des habitants, militants, membres et cadres de la coalition au pouvoir, l'UDPS, ont manifesté pour exiger des sanctions contre le Rwanda, soutien du M23. La guerre commerciale de Donald Trump commence et ses premières victimes sont le Canada et le Mexique. Victimes de nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump, le président américain signe ce samedi un décret ouvrant la voie à l'imposition de 25% sur des produits provenant de ces deux pays. Donald Trump, qui avait déjà usé de ses armes lors de son premier mandat pour faire plier ses partenaires commerciaux, c'est alors principalement la Chine qui était visée, mais depuis, la donne a changé, comme nous l'explique l'économiste Julien Marcilly, notre invité à la mi-journée sur RFI.
On se rappelle bien qu'à l'époque, Donald Trump ciblait beaucoup plus la Chine que les autres. Et si on s'en tient à sa doctrine, en fait, de son point de vue, il a remarqué que le déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine s'était en partie résorbé depuis cette époque-là. Mais ce qui le gêne plus aujourd'hui, c'est de voir que dans le même temps, le déficit commercial américain vis-à-vis d'autres pays, et en particulier le Mexique, le Canada aussi, et puis d'autres pays, a augmenté. Donc, dit autrement, il a remarqué qu'il y avait des exportations qui auparavant allaient directement de Chine vers les États-Unis, qui désormais passaient par des pays tiers, des pays tampons, comme le Mexique. D'où sa volonté, cette fois, de dire bah, « je vais non plus cibler uniquement la Chine, mais tous les pays, en tout cas tous mes principaux partenaires commerciaux, de manière à faire passer le message suivant. La dernière fois, je vous ai empêché de rentrer par la porte, mais vous êtes passé par la fenêtre. Cette fois-ci, je ferme tous les côtés. »
Sur un autre front, les négociations musclées de Donald Trump face à l'immigration illégale continuent d'avoir des effets en Amérique latine. Ce samedi, le nouveau chef d'État américain affirme que le Venezuela a accepté de reprendre ses ressortissants expulsés par les États-Unis, y compris les chefs de gang, précise Donald Trump. Donald Trump, d'ailleurs, qui a affirmé que les États-Unis avaient mené des frappes aériennes contre l'État islamique en Somalie. On y reviendra dans nos prochaines éditions. La Birmanie entre dans sa cinquième année de guerre. Après le coup d'État, la junte militaire a sévèrement réprimé les manifestations d'opposition. Elle a arrêté 20 000 Birmans et en a tué des milliers d'autres, selon l'ONU. Depuis, la révolte s'est transformée en une guerre civile entre l'armée et la rébellion pro-démocratique menée par différents groupes armés issus de minorités ethniques et la junte militaire Tang. Malgré le soutien important de la Chine à l'armée qui tient encore le centre du pays, la junte militaire ne cesse de reculer. Nicolas Roca.
Les grands centres urbains et quelques poches rurales dans les régions frontalières. Voilà à quoi ressemblent les territoires maîtrisés par l'armée birmane. Une large part du pays reste instable et en proie à d'intenses combats. Cet été, les rebelles ont conquis Lashio, une ville stratégique proche de la frontière avec la Chine. Elle abrite un des 14 commandements militaires régionaux du pays, le premier à tomber aux mains des rebelles. En tout, 95 villes seraient désormais sous contrôle de la résistance, selon le Myanmar Peace Monitor, et ce malgré des bombardements intense de l'armée, notamment sur des civils. À l'ouverture de la cinquième année de guerre, la junte n'a jamais semblé aussi faible. Elle a prolongé ce vendredi l'état d'urgence, repoussant de nouveau les élections. Les dernières remontent au scrutin législatif, largement remporté par le parti d'Aung San Suu Kyi en 2020, quelques mois avant le coup d'État. Le rôle joué par la Chine sera décisif dans les prochains mois. Pékin soutient la junte, à qui elle continue de livrer des armes, et parraine des négociations motivées par ses intérêts économiques et son désir de stabilité à sa frontière.
Nicolas Roca du service international de RFI. Des dizaines de milliers d'étudiants bloquent des ponts à Novi Sad, c'est en Serbie. Ils manifestent 3 mois, jour pour jour, après l'effondrement meurtrier du toit d'une gare de la ville. Symptôme, selon eux, de la corruption du pouvoir en place, contre laquelle ils manifestent. Les députés portugais adoptent un moratoire interdisant la recherche de gisements miniers dans les fonds marins jusqu'en 2050. Une loi va suivre et ce sera la première du genre en Europe. Jusqu'à présent, seule la Norvège a envisagé d'interdire la prospection, mais a finalement retiré son texte.
Nous sommes en train de faire l'histoire. 3 ONG environnementales portugaises se sont félicitées de la décision de l'Assemblée nationale de reporter à 2050 toute décision concernant l'exploitation des fonds marins portugais. Depuis longtemps, les associations alertaient sur l'impact possible des mines sur des écosystèmes encore très mal connus. Le gouvernement de droite s'était rangé à cet avis, estimant qu'il s'agissait d'une plongée dans l'inconnu. Le consensus a été assez large entre les députés qui le soutiennent et la gauche, et un texte de loi va être adoptée prochainement. Ce sera le premier du genre en Europe, car si une trentaine de pays dans le monde envisagent eux aussi d'adopter un moratoire, seules les îles Palaos et Fidji dans le Pacifique ont interdit l'exploitation minière des fonds marins. Le Portugal est, c'est vrai, particulièrement concerné. Il possède une vaste zone maritime exclusive qui englobe entre autres l'archipel des Açores dans l'Atlantique. Et c'est en bordure de ces îles, entre 4 et 6 000 mètres de profondeur, que des projets sont à l'étude, financés par la France, la Pologne et la Russie. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
Marilyn Darcy qui est donc notre correspondante au Portugal. Les méga-feux de Los Angeles sont maîtrisés, annoncent les pompiers américains. Bilan final, 30 morts et des milliers de déplacés. Ces incendies sont les plus destructeurs de l'histoire de la deuxième ville des États-Unis. Du rugby maintenant, première journée du tournoi des Six Nations. L'Écosse a battu l'Italie 31 à 19 ce samedi à Édimbourg. L'Irlande, elle, a renversé l'Angleterre à l'instant 27 à 22. Le tournoi des Six Nations, vous le savez, c'est cette compétition de rugby à 15 disputée chaque année entre les équipes d'Angleterre, d'Écosse, de France, du Pays de Galles, d'Irlande et d'Italie. C'est bientôt la fin de ce journal. Nous, on se retrouve dans 50 minutes pour 10 minutes d'information française. À tout à l'heure.